Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Alors, il y a une toute petite branche qui est née, donc il y a maintenant 27 ans, hein, ça commence à faire, mais on est toujours resté tout petit. Et en fait, si vous voulez, la spiritualité des fraternités monastiques, c'est faire jaillir des sources, enfin c'est Dieu qui fait jaillir, mais se rendre disponible pour que la source puisse jaillir dans les grandes villes, hein, en particulier parce qu'il y a finalement beaucoup de solitude. J'ai appris dernièrement qu'à Paris, je crois qu'une personne sur deux vit seule. Donc c'est une grande ville et en même temps il y a beaucoup de solitude. Et donc c'est ça un peu l'intuition de départ des fraternités monastiques de Jérusalem, d'établir un monastère, non pas à la campagne, mais en plein milieu de la ville pour prier, pour accueillir l'amour de Dieu et pour que les hommes et les femmes qui le souhaitent puissent venir avec les frères et les sœurs s'abreuver de cet amour. Et alors nous, c'est différent dans le sens où on a souhaité vraiment, enfin on l'a souhaité, on s'est vraiment senti appelé à vivre un peu cette même démarche, mais un peu dans le désert des paroisses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les évêques, parfois c'est difficile d'envoyer un prêtre dans une paroisse. Parce que, humainement parlant, c'est sûr que quand le prêtre est encore un peu jeune et que l'assemblée qu'il a devant lui, les personnes pourraient être largement ses parents, voire ses grands-parents, eh bien c'est quand même parfois un petit peu déroutant. Donc on se dit, mais est-ce que je me suis trompé de lieu? Est-ce que je suis bien là où je dois être? Bon, c'est un peu le désert. Mais en même temps, dans le désert, en fait, il y a plein de belles choses à vivre. Mais il faut s'y préparer un peu. Et donc, c'est comme ça qu'est venue un peu cette intuition de vivre en paroisse, donc au presbytère, pour ce qui concerne les frères et les sœurs donc à côté, et de prier surtout, ça c'est important pour nous, de prier dans l'église paroissiale. Donc on ne prie pas dans notre monastère, entre guillemets, mais on prie en tout cas au milieu de la paroisse, et on invite les paroissiens qui le souhaitent de venir à nous, avec nous plutôt. Mais même s'ils ne viennent pas, on prie de toute façon pour le peuple de Dieu qui habite sur ces lieux. Voilà. C'est un peu le départ de notre intuition.
À Tarbes, au service du diocèse, inséré au cœur du monde pour participer à la mission pastorale de l'église diocésaine, deux fraternités apostoliques de Jérusalem, une communauté de sœurs et une communauté de frères, dont la vie s'alimente à la sève monastique, ont également la charge et la responsabilité de l'ensemble paroissial de la cathédrale. Et c'est au cœur et avec ces deux fraternités que, dès jeudi matin, nous vivrons cette année le Triduum Pascal. Pour ma part, en amont de cette semaine sainte, pour découvrir l'histoire, la mission, la vocation, le charisme de ces fraternités, je passais 24 heures au sein de ces deux communautés. Nous venons rapidement d'entendre frère David-Marie. Au cours des jours qui viennent, nous le retrouverons, lui et ses frères et sœurs, et le temps de quelques reportages, nous partagerons un peu de ce qui fait leur vie. Prière, fraternité, apostolat. Il est 17 heures, ce mardi 30 mars, lorsque j'arrive au presbytère. Je suis en face de la cathédrale. Et c'est sœur Isabelle Mariam, supérieure de la fraternité des sœurs, qui m'accueille. Avec elle aujourd'hui, première découverte, premier pas, au cœur des fraternités apostoliques de Jérusalem, de Tarbes.
Alors c'est l'heure de retour des sœurs, parce que nous sommes toutes salariées. Et là c'est à peu près l'heure de... On quitte les bureaux, les endroits où on a des apostolats et on rentre. Donc il y a des allées et venues un petit peu. Et puis comme à 17h45 on a les vêpres, on commence déjà un petit peu à se préparer, à poser ses affaires, à se mettre un peu en condition pour pouvoir faire un petit sas.
Vous êtes combien de sœurs ici?
Nous sommes 5. Moi je suis salariée de la paroisse. Nous sommes 2 sœurs salariées de la paroisse, nous travaillons à mi-temps.
Voilà. Nécessité économique?
Oui, Oui,
nécessité. Mais pas économique. Que peut-être.
Non, c'est vrai que de cette manière-là, on peut partager la mission, puisque nous sommes salariés dans le cadre de l'Église. Ça, c'est une vraie chance. Parce que c'est comme un prolongement de notre vie de prière, en quelque sorte. Et du coup, nous sommes vraiment impliqués dans l'Église locale, puisque c'est vraiment au fondement de notre charisme.
Vous êtes toutes salariées de l'Église ?
Oui. Trois sœurs sont salariées du diocèse, et nous deux, nous sommes salariés de la paroisse. Enfin, directement du diocèse, et nous, de la paroisse, de l'ensemble paroissien, puisqu'il y a Tarbes, cathédrale, et puis aussi les villages.
Donc, il n'y a pas de rupture ?
Non, c'est ça. C'est ça. Je vous fais passer dans la chapelle.
Avec joie. Et là, sur le porte-manteau, oui, je vois, ce sont des coups.
Ce sont des capes. Nous avons une cape liturgique. Et ici, nous avons le tableau d'intercession, juste à l'entrée de la chapelle. Toutes les personnes qui se confient à nous, ou pour lesquelles nous savons qu'il y a des difficultés, des épreuves.
Vous portez dans la prière ensuite.
Oui. Nous
sommes dans la chapelle. C'est une chapelle des catacombes.
Oui, exactement. Avec vraiment une voûte en briques. C'est l'ancienne cave, hein, de toute façon. Mais l'évêque a souhaité, un évêque précédent a souhaité que la chapelle soit transférée du rez-de-chaussée ici, dans cette ancienne cave. Ça fait comme une crypte. Et il y a une ambiance très recueillie.
Et tous ces volumes, tout en rondeur.
Elle est très enveloppante.
Et vous vous retrouvez ici, donc le matin pour
Alors non, nous nous retrouvons dans la cathédrale avec les frères, parce qu'ici c'est la chapelle de la Maison des Sœurs. Les frères, eux, ont un oratoire. Non, nous l'utilisons principalement alors pour notre prière personnelle, et puis surtout le lundi de désert, nous célébrons la messe. Les frères viennent célébrer la messe ici avec nous. Donc le lundi de désert, puisque nous avons une journée par semaine où nous partons au désert pour vraiment nous ressourcer et rentrer à nouveau dans ce cœur à cœur avec le Seigneur pour pouvoir à nouveau donner ce que nous recevons.
Il faut avoir quelque chose à donner.
Ça vient du Christ, ça ne peut pas venir de nous. Et donc nous avons cette chance, cette grâce de pouvoir nous retrouver.
D'aller à la source.
À la source.
Vraiment d'aller à la source. Ouais.
Et dans un cœur à cœur au désert avec le Seigneur. Et donc cette chapelle, elle est principalement d'usage ce jour-là, mais elle est d'usage pour toutes celles qui veulent y venir dans la semaine, pour leur prière personnelle.
Le cœur de la maison, ici.
Oui, c'est vraiment le plus bel endroit, le cœur de la maison.
Et donc la chapelle a été aménagée lorsque vous vous êtes installée ici ?
Elle était déjà aménagée avant. C'est donc un évêque, je ne me rappelle plus lequel, je pourrais vous rechercher, qui l'a aménagée ici, puisqu'elle était avant au-dessus. Juste au-dessus. Oui. Et nous l'avons nettoyé, je dirais, parce qu'il y a quand même un peu de salpêtre, vous voyez. Et puis, nous l'avons complètement blanchi. Le fond est blanchi de manière à bien faire ressortir à la fois la croix, le Christ en croix, le tabernacle et puis l'autel.
Elle est très lumineuse aussi. En ce sens, on a l'impression d'être en pleine lumière naturelle.
Et
dépouillée.
Dépouillée, oui, elle est très dépouillée. Et étonnamment silencieuse, parce qu'en fait, ici, les vitraux, vous allez les voir en ressortant, donnent sur la cour du presbytère.
Mais il faut dire que les murs sont très épais, hein.
Oui.
C'est une maison ancienne. Donc...
Oui. On va repartir. Je vais refermer. Voilà. Je peux vous montrer l'endroit de là où elle était. L'endroit où elle se situait avant cette chapelle.
Ah, d'accord.
Vous voyez ce vitrail, la Vierge à l'enfant, elle est très belle. Et lorsqu'on traverse le couloir, on arrive avec cette fenêtre.
D'accord.
C'est là qu'était ce vitrail.
D'accord.
Donc la chapelle, c'était ici.
La chapelle qui est devenue aujourd'hui une bibliothèque.
Une bibliothèque qui a été une salle de réunion. Pour l'évêché, puisqu'elle est grande, il y a une très grande table, et nous l'avons transformée en bibliothèque et en lieu de travail. Alors ici, vous avez les portraits des évêques.
C'est s'inscrire dans une histoire aussi.
Oui, tout à fait.
C'est un lieu qui est porteur de toute une histoire de spiritualité. Et vous êtes inscrite, vous prenez la suite aussi.
Oui, nous y avons été invités par Mgr Beauvais, Et voilà, il nous a invités à venir habiter son évêché.
Vous parliez de continuité tout à l'heure entre vos vies professionnelles et puis votre vie d'apostolat. Un maillon de la chaîne.
Oui. C'est très silencieux ici aussi, mais c'est sans doute tous les livres le long des murs. Hein, ça nous aide.
Et le grincement
du parquet.
Et ça, c'est l'histoire des vieilles maisons.
Oui, ça, c'est notre salle de chapitre. C'est un des salons de cette maison qui était une maison de maître qui a été, à la Révolution, le palais épiscopal qui est devenu la préfecture, a donc été confisqué. Et l'évêque, si je me souviens bien, s'est enfui. Et à la suite de la restauration, ensuite, ils ont cherché un endroit et ils ont trouvé cette maison de maître qui est juste en face de la cathédrale en fait. Donc les volumes sont très grands. Il y a vraiment un espace.
Et puis vous recevez souvent beaucoup de retraitants. Vous avez peut-être besoin d'espace aussi pour recevoir.
Alors ici, nous n'avons pas d'hôtellerie, puisque vous avez remarqué lorsque je vous ai invité à monter dans la... il y en a trois là-haut. Et elles sont un petit peu à l'écart de la clôture, puisque nous avons une clôture. Et en fait... elles sont à la fois à l'écart de la clôture et en même temps on croise les sœurs dans l'escalier et on se retrouve en bas dans les salles communes avec les sœurs. Donc nous ne recevons pas de retraitants habituellement. Mais certaines personnes ont été hébergées d'urgence ici. Il y a eu des personnes qui ont été en difficulté, qui sont restées un temps. On a comme une espèce de charte. Et ces personnes, ce sont des femmes qui avaient vraiment des circonstances très difficiles dans leur vie. Et on les a reçues 2 semaines, 3 semaines. L'une d'entre elles restait un peu plus longtemps. Le temps qu'elles se retrouvent un petit peu, qu'elles puissent lancer des démarches et puis qu'ensuite elles puissent reprendre leur envol.
Écoutez et voyez comme est bon le Seigneur. Écoutez et voyez comme est bon le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, mets ta louange sur nos lèvres, que ce repas nous réunisse dans l'action de grâce, affermis nos pas dans notre marche vers les terres nouvelles, où Jésus nous donnera l'eau vive de l'Esprit, et d'aide bénir ce repas, toi qui es Père, Fils et Saint.
Amen.
Du livre de vie de Jérusalem au chapitre Travail. Une double nécessité t'invite à travailler. D'une part, subvenir aux besoins de la communauté, en vivant du travail de tes mains, de façon que ni tes frères ni toi ne soyez à la charge de personne. D'autre part, assister les faibles et venir en aide aux nécessiteux. Ainsi, la charité...
Là, c'est le réfectoire. Nous prenons les repas en silence. Nous avons une lecture, habituellement, sauf les solennités et les dimanches, où nous avons un repas avec un fond musical. Et nous sommes en silence jusqu'à l'arrivée du fromage sur la table. Après, nous rendons grâce à Dieu et les conversations peuvent commencer. Nous avons en commun certains apostolats. Et c'est vrai que le repas, c'est aussi un lieu. C'est à la fois une liturgie communautaire, mais c'est aussi un lieu où on peut échanger dans la journée, justement parce que nous avons des missions qui sont sur des lieux différents. Et avant de se retrouver le soir, c'est bien le midi de pouvoir aussi
partager.
Le petit déjeuner, lui, par contre, est complètement en silence chez les sœurs. C'est dans la continuité, parce que nous avons un temps d'adoration de 7h à 8h, puis nous avons les laudes, la prière des laudes dans la cathédrale. Ensuite, nous venons au petit déjeuner, et en suivant, de 9h à 10h, nous avons un temps de lectio. Et donc, on va recommencer des conversations qui nous mènent un petit peu, qui nous sortent un petit peu de ce recueillement. Et donc, on peut avoir des échanges, il n'y a pas de raison, c'est pas complètement rigide.
Il y a des urgences.
Oui, exactement. Il y a une flexibilité, mais toujours dans garder l'état d'esprit du silence.
Ce silence qui vous prépare justement à porter ensuite le monde, quand vous allez rencontrer, pour affronter le brouhaha du bruit de la ville.
Et des différentes situations que nous allons rencontrer, des personnes qui sont des personnes du quotidien, de tous les jours, et qui sont parfois dans de grandes difficultés ou alors qui veulent nous partager des joies, pour qu'on soit vraiment disponible.
Et pour ne pas vous laisser submerger, vous aussi.
Non plus, non. Non, nous sommes porteurs du Christ tous, mais c'est vrai que les personnes qui viennent au sein d'une paroisse viennent parfois, sans trop savoir pourquoi, elles viennent chercher le Seigneur. Et il ne faut pas qu'on fasse entrave au Seigneur lors de la rencontre. Et il faut vraiment qu'on soit totalement disponible pour ces personnes.
C'est un vecteur, quoi.
Oui, nous sommes des petits ouvriers. Nous sommes des petites ouvrières et des petits ouvriers. Oui. Mm-hmm. Ici, nous avons une salle de lecture. Et en même temps, vous allez voir, il y a des instruments de musique. Parce que, l'un des charismes de la fraternité, c'est vraiment un déploiement de la liturgie à travers le chant, la musique. Il y a beaucoup de guitares là. On voit qu'on a aussi un contact avec beaucoup de jeunes. Et certains de nos frères et sœurs sont très musiciens. Et c'est pas mon cas, malheureusement.
Chacun ses charismes.
Voilà. Et donc, il y a pas mal d'instruments. Ici, il y en a encore. Il y en a chez les frères aussi. Il y en a dans la cathédrale, dans une des sacristies. De manière à ce qu'on puisse faire profiter de cette dimension musicale, de cette beauté.
Qui est une prière.
Qui
est vraiment une prière.
La liturgie, elle est là pour nous aider à nous élancer vers Dieu. Et nous rendre participants de cette relation exceptionnelle que le Seigneur veut avoir avec nous. Mmh. Et donc, nous servons de la musique, comme beaucoup en Église. Hein. On n'a rien d'exceptionnel. Hein. Et donc ici se trouvent les instruments, tout ce qui est nécessaire aussi pour les partitions, les carnets de chant déjà prêts pour le temps de Pâques, le Triduum. Voilà. Il y en a encore ici, il y en a des classeurs entiers. Voilà.
Une liturgie qui s'enracine dans une tradition très ancienne de l'Église.
Je ne suis pas la mieux à même d'en parler, mais c'est vrai que nous chantons dans la liturgie au sein de l'Église cathédrale, nous chantons du Gouze, la musique du Père Gouze, et c'est vrai que tous les chants qu'il a composés sont vraiment complètement pétris de la Bible.
De la parole.
De la parole de Dieu.
De la parole, voilà, c'est ça.
Complètement pétris de la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on ne s'en lasse jamais, d'ailleurs.
Ce n'est pas de la paraphrase.
Non, pas du tout. Oui. Ce n'est pas une poétique humaine, ce qui en soi n'a rien de... Voilà, c'est très bien aussi. Mais c'est vraiment complètement pétri de la parole. C'est la parole de Dieu mise en musique.
Ce sont les psaumes.
Exactement. Les psaumes. Et puis, dans les hymnes qu'il a, et les cantiques, il a vraiment repris la parole de Dieu. Vous l'entendrez tout à l'heure.
Dans le chant d'entrée, nous prendrons H705. H705, le couplet 9.
De la maison, c'est la cuisine. Nous partageons les repas entre sœurs, mais aussi avec les frères de la fraternité des frères, 5 fois par semaine. Ça nous permet de cultiver
la fraternité. Vous avez vraiment une vie fraternelle.
Oui.
En étant chacun.
Chacun chez soi.
Chacun chez vous. Et dans cette fraternité qui nécessite peut-être des petites communautés aussi.
Nous ne sommes pas appelés à de grandes fraternités. Chez les sœurs, nous sommes 5, nous avons été jusqu'à 8-9, mais elles ont été appelées, elles sont en Italie.
À fonder.
Et les frères, eux, sont 5, donc 4 qui vivent sur place. Mm-hmm. Il y en a un qui est aumônier d'une communauté de sœurs apostoliques à Tarbes, qui s'occupe d'un EHPAD, d'une EHPAD, et qui est aussi exorciste du diocèse. Donc il est. Mmh. Il a des missions qui le prennent beaucoup.
Et vous, vous êtes des petits îlots de lumière, des petits îlots de la présence
des
du
foyers,
Christ.
Des foyers fraternels.
Foyers fraternels et de la,
l'Église.
Et témoins de la présence du Christ.
Oui, ah oui, oui. Nous espérons bien. Alors, nous avons fait le tour des parties communes.
Mmh. Et là, nous retournons, donc c'est la, à c'est l'extérieur, la cour. Là
et
où vous m'avez accueilli. Ce beau jardin, vous me disiez que dimanche dernier, vous avez pu prendre le repas ou le, à l'extérieur parce qu'il faisait tellement beau.
Oui.
Et là, c'est vrai qu'on on est,
là, c'est la cathédrale.
On est juste de, elle est, elle devant est... le chevet de la oui. cathédrale.
Oui.
Elle est très présente.
Ouais, hein. On la voit depuis nos fenêtres. Vous la voyez vous aussi depuis votre fenêtre. Elle est très présente. Elle est imposante. Ça fait plusieurs années qu'il y a des travaux aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a plusieurs époques qui l'ont marquée, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous avons Notre-Dame de Lourdes dans le jardin, bien entendu.
Et là, on est dans le jardin et le mur n'est pas très très haut, ce
non.
qui fait que voilà, on est en, vous êtes en relation avec,
le voisinage.
Avec le voisinage.
Oui.
En même temps, il y a le mur qui délimite bien le... Le monastère, puisque on est dans un monastère.
C'est pas un monastère, c'est une fraternité.
Une fraternité.
Alors, nous sommes apostoliques, donc alors, nous n'avons pas une vie.
Oui, parce qu'il y a, trois. Il y a les fraternités monastiques,
apostoliques
et laïques.
Et évangéliques, oui. C'est et, ce qui s'appelle évangélique.
Évangélique, d'accord.
Oui, mais qui sont composés de laïcs.
Vous,
oui.
vous êtes fraternité apostolique. Apostolique.
Donc, nous ne sommes pas des moniales ou des moines. Nous sommes frères et sœurs au sein des fraternités apostoliques.
Donc, plus, il y a trois familles. Trois
il y a trois, en quelque sorte, trois branches au même tronc. C'est une famille spirituelle avec...
Avec une unité, je suppose.
Une unité, oui, ça c'est sûr. Ne serait-ce qu'au niveau du tracé spirituel,
ouais.
Avec le livre de vie de Jérusalem, avec toute la liturgie qui nous est commune, même si nous, en paroisse, elle est un peu moins déployée que justement dans les monastères. Mais elle est quasi identique. Et puis, je dirais, nous sommes porteurs d'un charisme commun au sein des villes. Voilà.
Parce que les fraternités monastiques sont au cœur des villes.
Au cœur des villes.
Au cœur des villes.
Oui.
Mais les moines et moines sortent à ce moment-là aussi.
Ils sont
à l'extérieur.
Ils sont à l'extérieur également, puisqu'ils travaillent aussi à mi-temps. Mm-hmm. Nous partageons ça aussi. Pas nécessairement en église. Ils trouvent du travail là où ils le peuvent. Beaucoup sont dans le soin à la personne. Un certain nombre sont dans l'enseignement. Diverses choses.
Et en église aussi. Vos missions sont complémentaires, sont différentes, complémentaires.
Elles sont forcément complémentaires. Je veux dire, nous sommes tous appelés à être témoins du Christ au sein de l'endroit où le Seigneur nous a placés. Et au contact des personnes au sein de notre travail, alors nous, c'est vrai que ça se fait beaucoup en église, mais je vois qu'il y a un frère, par exemple, qui est aide-soignant dans une association qui va au domicile des personnes et qui le dit bien. Il dit, voilà, je suis porteur du Christ au sein de ce milieu. Mmh. Alors, vis-à-vis des personnes qu'il soigne, mais pas uniquement, vis-à-vis de ses collègues aussi. On est témoins du Christ, nous sommes témoins du Christ, comme tout baptisé d'ailleurs, nous sommes témoins du Christ au sein de notre vie professionnelle, et pas uniquement dans la liturgie, dans la liturgie à la cathédrale.
Mais témoins du Christ, votre tenue déjà, peut-être le dit.
Nous sommes en habit. Oui.
Ce qui favorise peut-être
la
rencontre, le dialogue.
En tout cas, nous sommes clairement identifiés. Oui. C'est clair que les personnes identifient que nous ne sommes pas... que nous sommes chrétiens, la plupart, même si certains ont des doutes, ils se demandent un petit peu. C'est vrai que...
Vous portez une croix ?
Alors la croix, elle est sous le scapulaire. Elle n'est pas sur le scapulaire, elle est sous le scapulaire. Il n'y a pas de différence entre le prieur, la prieure et les autres. La croix est sous le scapulaire pour tout le monde. Ça a été voulu. Par contre, c'est vrai que l'habit est long, avec un scapulaire justement, avec un voile. Et... j'ai envie de dire, on ne peut pas nous louper. Mais ça fait aussi partie de toutes ces communautés à la fois nouvelles et qui commencent à être un petit peu anciennes, un petit peu, mais ces communautés nouvelles tout de même, et qui sont en habit long, que ce soit les béatitudes, etc. Je pense qu'il y a c'est clairement identifié. Ça nous aide à nous laisser façonner. C'est vrai que On est porteur d'un habit et nous sommes des témoins avec une responsabilité particulière parce que nous portons cet habit.
C'était donc aujourd'hui notre tout premier pas au sein des Fraternités apostoliques de Jérusalem de Tarbes. Dès jeudi, avec frère David-Marie et avec le père Christian, curé de la cathédrale, depuis les origines, nous découvrirons l'histoire et la spiritualité de ces fraternités nourries de l'immense tradition monastique de l'Orient et de l'Occident chrétiens.